excellente journée à l'écoute de nos programmes. Bonjour le monde aujourd'hui, Eric Manilakiza avec vous sur VOA Afrique depuis Washington DC. Bienvenue dans cette édition du mardi 23 avril 2024, dont voici d'abord les principaux titres. Début des discussions entre Washington et Niamey sur le retrait des troupes américaines du Niger. Le président sénégalais plaide pour un partenariat repensé avec l'Europe, journalisme au Cameroun. L'odeur de l'encre et les défis du métier selon un nouvel ouvrage.
Je suis gêné parce que la presse ne joue pas pleinement son rôle.
Le Parlement britannique a adopté le projet sur l'expulsion de migrants au Rwanda. L'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens à Gaza a des problèmes de neutralité politique, mais pas de preuves de lien terroriste fournis par Israël. Ne manque pas à notre page sport ainsi que la Minute Echo. Pour l'instant, le journal. Washington a entamé les discussions avec Niamey sur le retrait du Niger des troupes américaines qui étaient déployées dans le cadre de la lutte anti-djihadiste au Sahel, a déclaré lundi le Pentagone. John Lyndon.
Nous pouvons confirmer le début des discussions entre les États-Unis et le Niger sur le retrait ordonné des forces américaines du pays, a déclaré le porte-parole du Pentagone, Pat Reeders. Une petite délégation du Pentagone et du commandement militaire américain pour l'Afrique participe aux discussions, a-t-il précisé. Les États-Unis vont continuer à explorer les options possibles afin d'assurer que nous soyons toujours en mesure de faire face aux potentielles menaces terroristes, a-t-il encore dit. À Niamey, le ministre nigérien des Affaires étrangères Bakary Yao Sangaré a indiqué dans un communiqué avoir eu lundi des discussions sur ce retrait avec l'ambassadrice des États-Unis à Niamey. Le Niger avait dénoncé en mars l'accord de coopération militaire en vigueur avec les États-Unis, estimant que la présence américaine était désormais illégale. Washington a finalement accepté la semaine dernière de retirer du pays ses plus de 1000 soldats et annoncé l'envoi d'une délégation au Niger pour s'accorder sur les détails de ce retrait.
Le nouveau président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, investi le 2 avril, a plaidé pour un partenariat repensé avec l'Union européenne lors d'une déclaration conjointe avec le président du Conseil européen Charles Michel en visite au Sénégal. Entre l'Europe et le Sénégal, la coopération est dense et multiforme, mais ensemble, nous voulons un partenariat repensé, rénové et apte à soutenir la dynamique novatrice que nous voulons imprimer à nos relations, a déclaré le président Diomaye Faye. Nous avons un intérêt très objectif à ce que le Sénégal puisse relever les défis, développement, émergence économique et amélioration des conditions de vie des populations, a indiqué le président du Conseil européen. Le Parlement britannique a approuvé dans la nuit de lundi à mardi le projet de loi controversé permettant l'expulsion vers le Rwanda de demandeurs d'asile entrés illégalement au Royaume-Uni et définit notamment le Rwanda comme un pays tiers sûr. Nanit Talani.
Ce projet, annoncé il y a 2 ans par le gouvernement conservateur, vise à lutter contre l'immigration clandestine en envoyant les migrants au Rwanda en échange de sommes substantielles. Malgré une longue bataille entre la Chambre haute et la Chambre basse, le projet de loi a finalement été adopté. L'opposition travailliste, des associations d'aide aux migrants et des experts de l'ONU critiquent vivement cette mesure, la jugeant contraire aux droits de l'homme. Le gouvernement a mobilisé des centaines de personnels, notamment des juges, pour traiter rapidement les éventuels recours des migrants illégaux. De plus, 2200 places en détention ont été réservées pour les migrants en attente d'examen de leur cas. Le Premier ministre Rishi Sunak se dit prêt à expulser les premiers demandeurs d'asile vers le Rwanda dans les prochaines semaines. Toutefois, des doutes subsistent quant à son efficacité, certains estimant qu'elle ne résoudra pas le problème des traversées de la Manche.
Au moins 38 migrants, dont des enfants, ont péri lundi dans le naufrage de leur embarcation près des côtes de Djibouti, a annoncé mardi l'Organisation internationale pour les migrations, l'ambassade éthiopienne à Djibouti, précisant qu'ils sont éthiopiens. Mohamedou Onfa.
Selon l'ambassade, l'embarcation a chaviré sur la côte nord-est de Djibouti lundi et transportait 60 migrants vers le Yémen, dont 38 ont péri. L'OIM indique que 38 corps ont été retrouvés, dont des enfants, faisant également état de 22 survivants et de 6 personnes portées disparues et présumées mortes. La plupart des victimes sont probablement éthiopiennes, a indiqué Yvonne Degué, une porte-parole de l'agence onusienne, précisant que le naufrage avait eu lieu à 200 mètres des côtes djiboutiennes tôt lundi matin. La route de l'Est, empruntée par les migrants depuis la corne de l'Afrique pour rejoindre l'Arabie saoudite via le Yémen en guerre, est considérée par l'OIM comme l'une des routes migratoires les plus dangereuses et les plus complexes d'Afrique et du monde. Même si les accidents sont réguliers, le nombre de migrants continue d'augmenter, regrette l'ambassade éthiopienne, qui souligne que les voyages illégaux vers le Yémen via Djibouti ne rapportent rien d'autre que la mort. Outre les naufrages, les migrants sont confrontés le long du chemin à la famine, aux risques sanitaires, aux trafiquants et autres criminels, manque de soins médicaux, de nourriture, d'eau et d'un abri, souligne l'OIM.
Les recherches pour retrouver des victimes du naufrage d'un bateau vendredi à Bangui se sont poursuivies lundi dans des conditions difficiles, a indiqué la protection civile, faisant état d'un nouveau bilan de 62 morts. Une centaine de personnes ont réussi à être sauvées sur les 300 présentes sur la baleinière. Il y a eu une cinquantaine de familles qui réclament encore des proches disparus, a déclaré le directeur général de la protection civile. Les dirigeants de la Tunisie, de l'Algérie et de la Libye sont convenus à l'issue d'une réunion consultative à Tunis de lutter ensemble contre les impacts de l'immigration clandestine et d'unir leur position et leur discours sur cette question. Les trois présidents ont aussi tenu à l'importance d'organiser périodiquement ces réunions consultatives, non seulement pour évoquer des dossiers politiques, mais aussi économiques et sociaux. Le Maroc et la Mauritanie n'ont pas été conviés à cet événement. Le ministre de l'Intérieur français a salué lundi à Rabat la coopération en matière de lutte antiterroriste avec le Maroc, appelé selon lui à participer à la sécurisation des Jeux Olympiques de Paris cet été.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens dans la bande de Gaza a des problèmes de neutralité politique, mais Israël doit encore fournir la preuve que certains de ses membres sont prétendument liés à des organisations terroristes. C'est ce qu'a conclu lundi un rapport remis au chef des Nations Unies, Rosine Munezero.
L'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens est irremplaçable et indispensable pour le développement humain et économique des Palestiniens. De plus, beaucoup considèrent que l'agence est une planche de salut humanitaire, écrit la mission pilotée par l'ex-chef de la diplomatie française Catherine Colonna, chargée par le secrétaire général Antonio Guterres d'une mission d'évaluation sur la neutralité de cette agence de l'ONU. Mais en dépit de ce cadre solide, des problèmes liés à la neutralité persistent, révèle-t-elle. Sur la base d'une liste de mars 2024 contenant des numéros d'identité de Palestiniens, Israël a affirmé publiquement qu'un nombre significatif d'employés de l'agence sont membres d'organisations terroristes. Des accusations qui ont entraîné la suspension de financement par certains pays donateurs, dont certains ont repris depuis. Israël doit cependant en apporter la preuve, prévient le groupe dans son rapport. Philippe Lazzarini, qui dirige l'agence, dénonce une campagne insidieuse pour mettre fin à ses opérations. Démanteler l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens dans la bande de Gaza aura des répercussions durables, avait-il prévenu.
Des tensions électrisent le campus américain. Des manifestants pro-palestiniens se disant déterminés, malgré la forte présence policière, à se battre pour leur liberté d'expression face à la droite qui les accuse d'antisémitisme. Des dizaines de tentes sont plantées sur la grande esplanade de l'Université Columbia à New York, occupée par les manifestants qui dénoncent la guerre menée par Israël à Gaza. Le Sénat américain se saisit à partir de ce mardi d'un énorme plan d'aide à l'Ukraine, adopté samedi après des mois de pénibles tractations à la Chambre des représentants. Le chef de file des sénateurs démocrates, qui contrôle la Chambre haute du Congrès américain Chuck Schumer avait promis dès samedi de finir le travail sans tarder. Le texte qui prévoit une gigantesque enveloppe de 85 milliards de dollars d'aide pour l'Ukraine, Israël et Taïwan pourrait être adopté avant la fin de la semaine et envoyé au président démocrate pour qu'il le promulgue. Le premier ministre britannique Rishi Sunak se rend ce mardi en Pologne où il va annoncer une aide supplémentaire de 500 millions de livres sterling et la fourniture de nouvelles munitions à l'Ukraine confrontée à une menace existentielle, a annoncé Downing Street. Rishi Sunak va rencontrer son homologue polonais ainsi que le chef de l'OTAN Jens Stoltenberg pour des discussions sur l'Ukraine et plus largement la sécurité européenne. Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Dans votre actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Éco, présentée ce matin par John Lyndon.
L'Afrique a de beaux jours devant elle, les perspectives s'améliorent progressivement et l'activité économique reprend modestement, notamment en Afrique subsaharienne. C'est du moins ce que constate le Fonds monétaire international dans son rapport d'avril 2024 sur les perspectives économiques régionales. L'institution, basée à Washington DC, fait ainsi savoir que la croissance en Afrique subsaharienne va passer de 3,4% en 2023 à 3,8% en 2024 et près des deux tiers des pays s'attendent à une croissance. Perspective économique stable pour le Bénin, l'agence de notation S&P vient de rehausser la notation de crédit du Bénin de B+, c'est-à-dire perspective positive à BB-, signifiant une perspective stable. Ainsi, note le site Financial Afrique, le Bénin est désormais au même niveau de risque que la Côte d'Ivoire, locomotive de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, noté BB-. Le Bénin surclasse aussi le Sénégal, noté B+/B. Le réseau social chinois TikTok s'est dit déçu par l'ouverture d'une enquête de la Commission européenne lundi sur sa nouvelle application TikTok Lite, qui récompense le temps passé devant les écrans et qui est soupçonné d'augmenter l'addiction des jeunes.
Et sans transition, nous retrouvons Yacouba Ouédraogo dans votre page des sports. Bonjour Yacouba.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Balle au panier pour commencer avec la Basketball Africa League qui bat son plein au Caire en Égypte.
Oui, pas de match aujourd'hui dans la conférence du Nil dont les rencontres se jouent à la salle Hassan Mustafa du Caire. Il y avait deux rencontres au programme hier. Les Ougandais de City Oilers étaient aux prises avec les Libyens d'Al-Ali Benghazi. Ces derniers l'ont emporté 79-68 et comptent désormais 2 victoires en 3 sorties. Dans le second match, le champion en titre Al-Ali du Caire a battu les Centrafricains du Bangui Sporting Club 85-79. Les Égyptiens alignent ainsi leur 3e victoire en 3 matchs dans ces rencontres de la conférence du Nil qu'ils accueillent.
Basketball toujours ici en NBA, Brooklyn recrute Jordi Fernandez.
L'Espagnol Jordi Fernandez, sélectionneur de l'équipe du Canada de basket, a été nommé entraîneur principal des Brooklyn Nets, a annoncé la franchise new-yorkaise. À 41 ans, le premier Espagnol nommé à la tête d'une franchise évoluant NBA a passé les 2 dernières saisons dans le staff des Sacramento Kings, dont il était l'entraîneur adjoint. Il fut aussi assistant dans l'encadrement des Denver Nuggets de 2016 à 2022. Il a aussi offert au basket canadien la première médaille de son histoire en conduisant la sélection à la 3e place de la dernière Coupe du Monde en septembre dernier, s'offrant au passage les États-Unis lors de la petite finale 127-118 après prolongation. 11e de la saison régulière en conférence Est, les Nets, qui n'ont pas décroché de billets pour les playoffs de la saison en cours, sont engagés dans un processus de reconstruction que Fernandez va devoir piloter.
Football, Djokovic, Bellingham et Bonmati récompensés au prix Laureus du sport.
Le Serbe Novak Djokovic, détenteur du record de titres du Grand Chelem avec 24 succès au terme d'une saison 2023 spectaculaire, a été élu sportif de l'année lors de la 25e cérémonie des prix Lawrence organisée cette année à Madrid. Jude Bellingham, le Golden Boy du Real Madrid, a lui reçu le prix de révélation mondiale de l'année après ses débuts exceptionnels avec le club madrilène. À seulement 20 ans, chez les femmes, la championne du monde espagnole et ballon d'or 2023, Aitana Bonmati, a été élue sportive de l'année. la gymnaste américaine Simone Biles a reçu à distance le trophée du comeback de l'année, entre autres prix attribués.
Page des sports signée Yakuba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manilakiza de retour avec vous pour aborder les dossiers du jour. Dans le centre du Mali, plus de 110 civils sont retenus depuis 6 jours par des individus présumés être des djihadistes, selon un groupement d'associations des localités de Bandiagara et de Bankas qui demandent leur libération. Le 19 avril, le même groupement d'associations de Bandiagara a publié un communiqué dénonçant la persistance des attaques terroristes, l'augmentation du nombre de déplacés dans les zones urbaines et l'inaction des forces armées dans la région. Yakuba Ouedraogo a joint à Bankas Mamoudou Guindo, président du conseil local des jeunes de Bankas.
Pour le rappel, le 10 novembre 2021, trois de nos cars ont été enlevés. Jusqu'au présent, les otages ne sont pas livrés. Parmi lesquels, il y a un maire adjoint, celle des villages, moi, mon premier vice-président du conseil local de la jeunesse, qui partait pour la rencontre par rapport aux organisations territoriales. Jusque-là, on n'a pas leur nouvelle. Et après ça, il y a eu d'autres enlèvements. Pour le mardi passé, c'était le quatrième fois. Donc, nous avons dit que chaque fois, c'est le cas des Bankas qui est attaqué, c'est les cars des Bankas en général qui est visé. Donc, dès lors, nous, population civile, nous avons décidé vraiment de mener certaines actions pour dénoncer, bien sûr, et en même temps interpeller les autorités par rapport à la sécurisation des personnes et des biens. À l'issue de cette rencontre, nous avons décidé vraiment de barrer la route RN15 et la route serpentée. Deuxièmement, c'est de ne pas passer, bien sûr, au dialogue inter-malien, d'ailleurs, qui a débuté depuis 3 jours à Bandiagara. Troisièmement aussi, c'est d'aller à une désobéissance civile. Nous avons passé, c'est-à-dire aux différents services, observer, voir vraiment si cette décision a été vraiment respectée. Donc maintenant, nous avons passé dans un premier temps à la préfecture, à la mairie, partout.
Et quel est le constat que vous faites?
On a vu que vraiment, il y avait vraiment des services qui n'ont pas respecté à 100%. Donc maintenant, après notre passage, je pense qu'ils sont venus vraiment à respecter les consignes données.
À qui vous avez adressé vos doléances?
Aux autorités de l'État.
À quelle autorité?
Parce que le premier répondant de l'État, c'est le préfet. Au niveau de l'État, c'est le gouverneur. Donc maintenant, nous, quand même, après la rencontre, tout le monde a eu l'information par rapport à la décision prise par la population. C'est à l'issue de cette rencontre, les autorités ont approché vraiment un grand marabout. Il est écouté et respecté par tout le monde à Bankas. Un peu partout au Mali, les cercles, Cheikh Alpha Sy du Guinée de Bankas, les autorités ont voulu les demander à la population vraiment de lever les défis. C'est grâce à lui que vraiment la route aussi voilà, a été libérée sous condition. D'ici mercredi, j'allais dire, on va observer, voir si l'autorité arrive à vraiment voilà, satisfaire vraiment les doléances de la population.
Qu'est-ce que vous avez demandé concrètement aux autorités?
L'installation d'un camp militaire entre Paro et Somabia dans un bref délai. Deuxièmement, ça c'est de faire des ratissages dans les zones où nous estimons que vraiment les terroristes ont des bases. Surtout la route RN15 jusqu'à dans la commune de Ségué ou encore sur la frontière Burkina, surtout dans la forêt de Samori. Sinon, troisièmement, ça c'est la libération de tous nos otages. Que l'État s'investit. On a passé auprès de nos autorités. Jusqu'à présent, on n'a pas eu bien les causes.
Mamoudou Guindo, président du conseil local des jeunes de Bankas au Mali.
Restez branchés 24h/24 sur VOA Afrique à Bamako au Mali sur 102.0 FM.
Plongeons maintenant dans les arcanes du journalisme camerounais avec le nouvel ouvrage « J'aime l'odeur de l'encre » au petit matin sur le papier. 35 années de journalisme au Cameroun publié par le journaliste Haman Mana aux éditions Chabel. Dans un entretien avec Antoine Roger Bolamba, l'auteur dévoile les défis insurmontables auxquels sont confrontés les journalistes et la censure omniprésente qui règne sur la presse au Cameroun.
Je suis gêné parce que la presse ne joue pas pleinement son rôle d'information, son rôle de formation, son rôle de formation et d'éducation, et même à la fin, son rôle de reliance sociale. Non, la presse ne joue pas pleinement. Pour une raison simple, le climat politique, me semble-t-il, a, parce qu'il a installé une forme de chape de plomb.
Ça veut dire quoi ?
La chape de plomb, c'est comme ce studio dans lequel nous sommes. C'est-à-dire que...
Vous voulez dire que la presse est muselée ou ?
Oui, bien sûr, la presse est muselée. La presse est muselée. La presse est muselée de plusieurs manières différentes. La presse est muselée d'abord, un, par l'empêchement de son essor économique. Deuxièmement, la presse est muselée par un ensemble d'intimidations, de lois et règlements qui font que si on ne veut pas que tu dises quelque chose, tu ne le diras pas de toutes les façons. Vous voyez ?
Mais maintenant, ça veut dire que la presse au Cameroun maintenant a une vie ou non ?
La presse qui est alignée...
Il y a la liberté d'expression.
Non, la presse qui est alignée sur les points de vue du pouvoir a les moyens de respirer et pour dire ce qui est bon à être entendu. Mais la presse qui ne dit pas ce qui est bon à être entendu par les tenants du pouvoir a un ensemble de difficultés qui vont des difficultés économiques et logistiques aux difficultés politiques.
Alors, aux difficultés politiques. Parlons aussi du journal Le Jour que vous avez créé juste après l'imitation. Ça existait jusqu'à présent ?
Bien sûr.
Quelle est la santé de ce journal et comment est-ce qu'il travaille, il fonctionne dans cet environnement-là ?
Alors, c'est très difficile. C'est très difficile. Le Jour aujourd'hui suivi grâce au dévouement de ces hommes. C'est-à-dire qu'il y a des hommes qui ont choisi ce journal comme mode de survie professionnelle et même existentielle. Et c'est pour cela que ce journal suivi. Ce journal, je rends vraiment hommage aux hommes qui continuent à le piloter, qui le pilotent. C'est un journal qui survit grâce à la foi de ces hommes en leur envie de se battre pour qu'ils ne meurent pas.
Le journaliste Haman Mana, auteur d'un nouvel ouvrage décrivant les conditions des journalistes au Cameroun.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Bangui, c'est sur 101.7 FM en République centrafricaine.
Au Bénin, une conférence des partenaires a été organisée par le fonds français Muskoka avec le soutien du système des Nations Unies et du gouvernement béninois. Elle a rassemblé les délégués des gouvernements des pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre pour examiner les questions relatives à la santé maternelle, néonatale, infantile, des adolescents et de la nutrition. Les précisions avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur-Adandé.
Enjeux et défis pour atteindre la couverture de santé universelle pour toutes les mères, les nouveau-nés, les jeunes et les adolescents et renforcement de la résilience des systèmes de santé. Tel est le thème de cette conférence des partenaires de haut niveau. L'Afrique de l'Ouest et du Centre est confrontée à des défis humanitaires de développement majeurs avec l'un des taux de mortalité maternelle et infantile les plus élevés au monde. Le Bénin fait des efforts dans ce sens, dira le professeur Benjamin Rumpati, ministre béninois de la Santé.
Nous avons depuis un an environ démarrer une nouvelle politique de santé communautaire qui, je pense, est assez révolutionnaire et est scrutée à la loupe par l'ensemble des partenaires, je pense bien, qui sont dans cette salle. Je suis convaincu que pour réussir, nous devons continuer à travailler ensemble pour surmonter les obstacles qui entravent l'accès aux soins, tels que les inégalités sociales, géographiques et économiques, l'insuffisante infrastructure de santé adéquate, les pénuries de personnel de santé qualifié et les défis liés à la qualité des services de santé.
Au Bénin, le taux d'accouchement assisté par un personnel qualifié est de 78% en 2018. Le ratio de mortalité maternelle a été réduit de 14% entre 2010 et 2017. Le taux de mortalité néonatale a été réduit de 33% entre 90 et 2020. Quant au taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans, il a été réduit de 51% entre 90 et 2020. Pour Dr Jean-Marie Vianney Yamehogo, représentant résident de l'OMS Sénégal, ces chiffres qui ne sont pas si différents de ceux des pays participants doivent faire réfléchir.
Organiser cette conférence en ces moments cruciaux pour mobiliser les bailleurs et les décideurs autour de cette thématique est plus que judicieux. L'OMS appelle aussi les parlementaires et tous les acteurs de la société civile et du secteur privé à contribuer à l'accroissement des ressources domestiques pour la santé de la femme, des enfants et des adolescents en particulier.
Dans la société, les femmes et les filles font face à de nombreux défis. La directrice adjointe de ONU Femmes de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Muriel Kamitatou, met l'accent non seulement sur les violences basées sur le genre, mais aussi sur la question des normes sociales et culturelles.
Oui, on a des défis en matière de soins de santé primaires, mais on a aussi des défis qui sont culturels et qui affectent les femmes, les filles, les garçons et les hommes en matière de discrimination, tant dans les sphères publiques et privées, et qui empêchent notamment les femmes et les filles de jouer pleinement de leurs droits. Pour relever ces défis, il est impératif de mettre en œuvre des politiques et des programmes efficaces qui visent à une égalité homme-femme, mais surtout à l'autonomisation des femmes et des filles. Cette conférence, elle est particulièrement opportune et que nous sommes optimistes quant à l'engagement et le soutien de nouveaux bailleurs. Pour que nous puissions redoubler d'efforts, nous avons besoin de ressources additionnelles.
Malgré l'engagement des gouvernements nationaux, la contribution des partenaires est déterminante. Renforcer l'intégration des services et mettre l'accent sur la prévention et les interventions précoces sont essentielles pour une couverture sanitaire universelle efficace. De Cotonou, Ginette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
La journée de la Terre, observée depuis 70 ans, souligne notre rôle crucial en tant que gardien de la diversité biologique de notre planète, qui abrite plus de 8 millions d'espèces végétales et animales, y compris l'homme. En tant que prédateur dominant, nous avons la responsabilité de préserver notre environnement étant donné que notre activité a eu des conséquences positives et négatives sur la Terre au fil des millénaires. Pour un tour d'horizon sur le continent africain, Nathalie Barge a joint l'environnementaliste burkinabé Zenabo Segda qui s'exprime d'abord sur la problématique des déchets plastiques.
Une étude de la Banque mondiale Water Waste depuis 2012 avait révélé que les déchets plastiques occupent 4% de la production annuelle des déchets solides qui était de 1288 tonnes par jour au Burkina. Cela a pour corollaire l'insalubrité, la dégradation du cadre de vie. Nous sommes enclavés, mais cela n'échappe pas à nos cours d'eau et lacs. Elle met en péril la santé humaine et animale. À côté de cela, nous rencontrons des difficultés de la mise en œuvre de la loi 17-2014 portant interdiction de la production, l'importation et la commercialisation et la distribution des emballages et sachets plastiques non biodégradables. C'est au regard de ces difficultés d'ailleurs qu'une stratégie nationale de gestion des déchets plastiques et son plan d'action ont été élaborés en 2023 pour venir à bout du phénomène. Pour ce qui concerne notre groupe de femmes, nous contribuons à travers plusieurs approches avec divers acteurs, y compris des projets en cours de mise en œuvre de systèmes de transformation de ces déchets.
Il y a de nombreuses inondations depuis 2023 en Afrique à cause d'El Niño et du réchauffement climatique. Quelles sont les conséquences sur l'agriculture et comment prévenir les dégâts des cultures lors de fortes précipitations ?
Leurs conséquences sont très néfastes sur l'agriculture à tous les stades culturels, avec des risques élevés de pertes. Les moyens techniques pour les prévenir existent quelque peu, comme des aménagements plus complexes, mais sont très coûteux pour les producteurs et productrices. Une autre option est l'assurance climatique, qui n'est pas très courante et ne concerne pas encore tous les types de cultures.
L'avancée du désert est aussi un phénomène menaçant la sous-région. Quelles sont les urgences auxquelles répondre pour améliorer la vie des communautés vivant dans les zones sahéliennes concernées ?
L'accès aux services de base, de santé, l'alimentaire, les mesures et technologies d'adaptation au changement climatique sont nécessaires pour construire cette résilience.
La déforestation est toujours d'actualité, sachant que les forêts sont indispensables à la vie sur Terre. Comment préserver les bassins forestiers tout en permettant aux communautés locales de subvenir à leurs besoins et aux pays d'exploiter leur bois pour raisons économiques?
Le bois énergie est l'énergie la plus encore utilisée, surtout en milieu rural. On a aussi le bois d'œuvre, mais aussi des pratiques culturelles inappropriées. Il faut une bonne gouvernance environnementale. Nous avons la chance d'avoir eu ces pratiques de gouvernance environnementale au Burkina à travers des projets publics, même si cette gouvernance doit être encore plus rigoureuse.
Zainabou Segda, présidente du programme environnemental pour les femmes au Burkina Faso, Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Eric Manila qui a été avec vous. Excellent.